Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le titre que je voudrais donner pour aujourd'hui, c'est « Que faites-vous dans les moments difficiles ?» Que faites-vous dans les moments difficiles ? Beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à Dieu, n'y croient pas en lui, ne cherchent pas à comprendre des choses, mais quand les choses tournent mal, on lui fait des reproches. Vous me direz, oui, mais ça c'est les athées, c'est les incroyants, c'est les irréligieux. Ah bon, vraiment ? On peut se poser la question. Parce qu'il y a aussi des gens qui se disent croyants, mais ils ne s'intéressent pas beaucoup à Dieu. Quelle place est-ce qu'il a dans leur quotidien ? Ils ne croient pas en lui. Ils disent qu'ils sont croyants, mais ils ne croient pas en lui. Est-ce qu'ils prennent ses promesses au sérieux ? Et des fois aussi, ils ne cherchent pas à comprendre. On peut réfléchir, on peut dire, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie ? Est-ce que je suis dans la bonne direction ? Je trouve que c'est dommage si au bout d'un certain nombre d'années, vous vous rendez compte, mais finalement, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. C'est comme pour le choix des études ou d'autres choses. On peut dire, ah ben maintenant j'ai commencé ces études, ben je vais aller jusqu'au bout. Mais si ce n'est pas ce que tu veux faire, à un moment donné, il vaut mieux faire stop et changer de cap plutôt que dire, non, ben je vais jusqu'au bout. Et donc, avec toutes ces questions qu'on se pose ou qu'on ne se pose pas, on arrive au même point que d'autres personnes, des fois, quand les choses tournent mal, on lui fait des reproches. Alors qu'au contraire, donc je vous invite maintenant à voir quelles sont nos réactions dans les moments difficiles, comment on agit. Et pour introduire encore, il y a deux passages de l'Écriture que je voudrais qu'on regarde. Dans le livre de Job, au chapitre 36, il nous est dit quelque chose concernant la souffrance. Donc quand je dis « que faites-vous dans les moments difficiles ?», c'est dans un moment de souffrance. La souffrance, elle peut être physique ou pas physique, elle peut être grave ou pas grave, mais en tout cas, c'est un moment difficile. Hein. Donc, dans Job 36, verset 21, j'avais en mémoire, « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Et dans une autre version, il est dit, « Veille à ne pas te tourner vers le mal, car c'est ce que tu as choisi à cause de la souffrance. » Des fois, on a cette impression dans les milieux chrétiens, la souffrance, c'est une bonne chose parce que ça fait que les gens vont se tourner vers Dieu pour chercher du secours. Mais la réalité de la plupart des personnes n'est pas du tout ça. Il y a quelques personnes dans la souffrance qui se tournent vers Dieu, qui cherchent du secours auprès de lui quand ça ne va pas, mais d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des personnes qui peuvent, en vieillissant, avoir des problèmes de santé de toutes sortes. En plus, avec un âge très avancé, on peut imaginer que quelqu'un, il va vers la fin de sa vie. Et ce n'est pas pour autant qu'on a des merveilleuses personnes parmi les personnes âgées ou les personnes souffrantes et que tout le monde s'est réconcilié avec Dieu et que tout le monde a fait un retour sur lui-même. Au contraire, on a des gens qui sont fâchés, aigris avec les autres, qui sont pénibles, désagréables. Toutes ces choses existent. Donc ce verset a tout à fait du sens qu'il y a des gens qui se tournent vers le mal parce que c'est ce qu'ils choisissent, la Bible nous dit ici, à cause de la souffrance. Donc ils choisissent le mal à cause de la souffrance. Donc on peut les comprendre, mais ça ne nous intéresse pas juste de les comprendre. On veut au contraire trouver une voie de sortie, trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement dans cette situation. Un autre passage qui nous parle de la souffrance dans un domaine beaucoup plus grand, c'est dans Apocalypse chapitre 16, on va lire plusieurs versets. C'est dans un contexte de temps de la fin où un certain nombre d'événements ont existé déjà, l'enlèvement de l'Église, il y a toutes sortes de choses, souvent les gens pensent Apocalypse, catastrophe, etc. Donc dans Apocalypse, au chapitre 16 et verset 7, l'apôtre Jean dit « J'entendis de l'autel une voix qui disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Un jugement de Dieu, ce n'est pas Dieu qui... Non, il en a marre, il est en colère et maintenant il déverse sa fureur sur la terre. Ce n'est pas ça. Un jugement, c'est une séparation. Quand un juge prononce un jugement, Il prend une décision de dire, voilà, telle est la sentence. Un jugement, ça peut être un acquittement. C'est aussi un jugement. Un jugement, ce n'est pas une punition. C'est une décision. Donc, les jugements de Dieu, ce sont des décisions que, à un certain moment, les hommes ont pris des directions qui ont des conséquences. Et donc, verset 8, le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Verset 9, les hommes furent brûlés par une grande chaleur, ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, ils ne changèrent pas d'attitude pour lui rendre gloire. Vous voyez, dans leur souffrance, il n'est pas dit, dans quelle situation on s'est mis là, nous sommes éloignés de Dieu, il faut qu'on lui demande pardon. Et non, ils ne changent pas d'attitude, ils persévèrent dans leur révolte et ils subissent les jugements de Dieu. Verset 10, le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes, il nous est dit, se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs, de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs actes. Donc il n'y a en aucun cas une situation où Dieu prend plaisir à faire souffrir les hommes, ni que c'est quelque chose d'inexorable, mais la Bible insiste sur le fait qu'il n'y a pas de changement, ni d'attitude, ni de repentance, ni de quoi que ce soit. Donc ça montre que ici la douleur, la souffrance sont liés en même temps à une attitude de continuer de faire le mal et ne pas se repentir. C'est un contexte là vraiment extrême et dramatique, mais il fallait le dire pour présenter le sujet, de dire donc dans certaines situations difficiles, cette tentation est devant nous de mal réagir, de prendre la mauvaise direction. Et il nous est dit, à cause de la souffrance, tu as choisi certaines choses. Donc pour nous aussi, veillons à voir, même dans nos petites choses du quotidien, quelles sont nos réactions. Donc j'aimerais juste voir trois points avec vous. Nos intentions, nos actions et nos réactions. Le premier point, donc les intentions. Des fois, on a de bonnes intentions pour notre vie, servir Dieu, etc. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas toujours, parce que Dieu, il ne veut pas être la roue de secours de notre vie. On fait ce qu'on veut, de temps en temps quand ça va pas, on appelle Dieu au secours. Mais au contraire, il veut prendre le volant, il veut diriger notre vie, nous guider, conseiller. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de capacité de faire des choix. Hein? Il n'y a pas un truc écrit là où Dieu va vous dire exactement quelle va être la composition de votre menu, quelle couleur va être votre robe ce matin ou des choses comme ça. Vous avez plein de décisions que vous pouvez prendre pour votre vie où il n'y a pas la volonté parfaite de Dieu qui doit être respectée. Comprenez? Mais il y a des choses dans lesquelles il veut nous diriger. Après, on peut choisir entre un tel et un tel, des directions, des solutions, des choses. C'est une collaboration entre les deux. Un guide, c'est pas un dictateur. Hein. Il dit pas, tu fais ça maintenant, comme ça, et pas autrement. C'est, voilà la voie que je te montre. Et en général, on fait bien de suivre ses conseils. Mais des fois, il y a plusieurs options. Donc, un aspect, on peut se rappeler le verset qu'on a lu plusieurs fois dernièrement, Proverbes 3:5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Des fois aussi, donc on a vu, on peut avoir des bonnes intentions, des fois on a nos propres idées sur certaines choses qu'on veut faire et on laisse un peu Dieu en dehors de ça, et non seulement on le laisse en dehors, mais des fois on va même dans une autre direction, alors qu'on sait ce qui est bon. Un exemple pour ça dans la Bible, c'est Jonas. Dieu lui avait dit quoi faire, mais il nous est dit dans Jonas, chapitre 1, verset 3, « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. » Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Jésus, dans les évangiles, à un moment, il dit à ses disciples, il dit, « Venez un peu à l'écart pour prendre du repos. » C'est la définition des vacances. Il y a un moment de vacances où on a besoin de ne pas être là où on est toujours, au milieu des activités, se mettre un peu à l'écart. Ça peut être une demi-journée, une journée, une semaine, vous n'avez pas besoin de faire 1000 kilomètres ou 2000 ou encore plus pour être en vacances. C'est une question des fois d'attitude, de je débranche, je téléphone ou je fais autre chose. Mais il y a aussi des gens, un peu à l'image de Jonas, alors que Dieu les appelle à faire quelque chose qui sera bon pour eux, au contraire, ils veulent aller dans une autre direction. Et ce qui est notable, c'est que il nous est dit dans la Bible, il paya le prix du transport. Il a payé le prix pour aller loin de la volonté de Dieu. Ce qui est quand même très symptomatique que quand on s'éloigne de la volonté de Dieu, ça nous coûte toujours quelque chose. Et donc, si Dieu peut aussi vous conduire pour vos vacances, allez là où ça va vous faire du bien. Quand on voit les vacances de certains, stressés avant le départ, fatigués et stressés pendant le voyage, fatigués en arrivant, et on remet ça juste avant de reprendre les activités, il faudrait quand même sortir de ça et profiter davantage de chaque instant que nous prenons pour nous mettre à part. Et rappelez-vous, on peut être à part, juste où vous êtes. Il est dit, des fois, va dans ta chambre, ferme la porte, et là tu t'entretiens avec ton Père Céleste. Et il te le rendra, il nous est dit. Il va te récompenser pour ça. Des fois, des choses peuvent aussi arriver, donc là on est toujours dans nos intentions, sans qu'on ait mal agi. Dans le contexte de Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les Actes des Apôtres, chapitre 3 et suivant? Ils ont parlé la guérison à un paralytique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La conséquence, ça a été d'attirer l'attention. Ils ont prêché le nom de Jésus. À cause de ça, ils ont été mis en prison et ils ont eu des menaces. Pour dire, oh, c'est pas juste, voilà, j'ai rien fait de mal et pourtant, voilà ce qui m'arrive. Et il nous est dit, voyant leurs menaces, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers les leurs. Et tous ensemble, ils ont prié. C'est dans Actes chapitre 4 et verset 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs, racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu et ils prient. Donc il y a un moment aussi pour dire par rapport à nos intentions, on avait bien agi et tout. Pourtant il y a quelque chose de négatif qui arrive, des fois il y a de l'opposition. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben on prie. Et quelle est leur prière? C'est intéressant aussi. Ils disent pas, oh Seigneur, pauvre de nous, regarde ce qui nous est arrivé, gna 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 gna. Non, ils disent tout le temps, toi et tu. Tu es le Seigneur, tu es le maître de l'univers. Regarde leurs menaces, ils s'attaquent au nom de Jésus. Ils, etc., fais quelque chose pour toi, pour ton nom, pour ta gloire. Et il nous est dit, quand ils ont eu fini de prier, le lieu où ils étaient trembla. Des fois, on est content quand on tremble parce qu'il y a l'onction, parce qu'on est saisi par l'Esprit de Dieu. Et quelqu'un dit, mais quand les murs commencent à trembler, là, tu vois vraiment qu'il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Donc, une bonne réaction dans cette situation. Les intentions étaient bonnes, les actions étaient bonnes, mais il y a eu de l'opposition, mais il y a une bonne réaction. C'est aller vers les leurs et prier. Donc, quand vous avez des moments difficiles, allez vers les vôtres, ceux qui vous comprennent, ceux qui peuvent vous soutenir dans la foi, parce que c'est ça qui est important. Des fois, quand on souffre, on a envie d'en parler à quelqu'un, on dit ça soulage, mais des fois l'autre, il va vous tirer vers le bas, il va pas vous aider. Il faut trouver quelqu'un qui vous pouvez partager avec lui, mais après, au bout d'un moment, il va dire, ben on va prier ensemble, ou on va se confier à Dieu, on va lui demander d'intervenir, ou il va vous donner un exemple de quelqu'un qui s'en est sorti, ou n'importe, mais pas juste des gens qui vont... « Ah, je te comprends, on tape sur l'épaule. » C'est bien, mais j'aimerais plus que ça, hein, vraiment m'en sortir. Parce que on en parlait avec mon épouse l'autre jour, on disait, oui, tous ces gens, quand on entend quelque chose qui va pas, bon courage et bon rétablissement, et c'est super, je n'enlève rien du tout à la qualité de nos encouragements humains. Mais à un moment donné, quand on peut avoir du surnaturel, quand on peut avoir l'aide de Dieu, alors ça change tout. Le dernier point encore des bonnes intentions qu'on peut avoir, c'est quand Jésus a parlé de sa mort à ses disciples, il a dit, et à un moment, vous allez tous me quitter, vous allez tous me trahir, et vous allez tous, dans une des Bibles, il a dit, vous allez tous trébucher. Trébucher, et Pierre lui dit, dans Marc 14, verset 29, même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Hein, dans les autres versets, on a « Si tous te renient, moi je ne te renierai jamais. » Donc, restez vigilants. Jésus a dit, Matthieu 26, 41, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Donc voilà, on peut avoir toutes ces intentions, on a survolé quelques aspects de choses qui peuvent nous animer, mais à un moment donné, il faut qu'on se rappelle qu'on a besoin de rester vigilant et de prier. Alors, en ce qui concerne nos actions maintenant, on a les intentions, c'est bien, des fois on dit c'est l'intention qui compte, c'est un bon début, mais à un moment donné, il faut que ça soit suivi d'actions. Donc pour ce qui concerne les actions, on peut lire ensemble dans 1 Jean. J'ai 2-3 passages qu'on peut lire ensemble. 1 Jean 3, verset 18. L'apôtre Jean appelait les autres auxquels il écrivait « mes petits enfants ». C'était un moment où il était déjà âgé, très expérimenté dans le ministère, et donc il les appelait « mes petits enfants ». Je ne sais pas si vous aimez que ça, qu'on vous dise « mon petit enfant ». Nous, on veut être grand et mûr. Mais bon, voilà. Des fois, on a besoin de s'humilier. Donc, on s'humilie devant la parole de Dieu. On reçoit le conseil de Dieu. Voilà ce qu'il dit. « N'aimons pas en parole et avec la langue. Pas seulement des discours, mais en acte et avec vérité. » Une autre version dit « mais en action ». Donc, en acte. Alors, comment est-ce qu'on peut agir? Agir, ça sera toujours des verbes d'action. Par exemple, on peut marcher dans la lumière. 1 Jean 1, 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, marcher dans la lumière. Et là, des fois, les gens vous disent, oui, mais dans la vie, il n'y a pas du blanc et noir, il y a du gris avec des nuances, etc. Non, peut-être que nous, on est dans les nuances de gris, mais en réalité, il existe la lumière. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres, c'est clair. Et donc, il est dit aussi, parce qu'on parle ici du mensonge, il dit, le diable, c'est le père du mensonge. Et quand il parle de son propre fond. C'est ce qu'il y a en lui. Donc, il y a clairement Dieu qui est dans la lumière et le diable qui est dans le mensonge. Et nous, on se situe quelque part entre les deux, mais on est appelé de plus en plus à être dans la lumière. Et même si on n'est pas parfaitement dans la lumière, l'important, c'est qu'on ne dise pas « Mais je suis dans la lumière, tout va bien, tout va bien, tout va bien. » Non, si on se rend compte à un moment donné qu'on marche dans les ténèbres, ben, on fait ce qu'il faut, on va vers Dieu, on retrouve la communion avec lui et on est purifié par le sang de son Fils Jésus. Donc, les actions, c'est marcher. 1, c'est marcher dans la lumière. 2, c'est marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, c'est... on n'est pas dans un monde enchanté des bisounours, tout le monde est beau, gentil, voilà. Donc c'est les trucs pour les enfants, mais dans le monde actuellement, c'est quand vous me parlez d'amour, des fois, les gens, ils veulent tout de suite casser cette image de, ouais, mais c'est un monde de gentil, là, tout est en rose et tout, ça n'existe pas. Non, c'est en fait pour casser l'image que le véritable amour existe et qu'il peut être manifesté. Donc, nous, on sait que l'amour, c'est pas juste des sentiments et des petites fleurs et des odeurs, des parfums. Tout ça, c'est joli, mais ça fait partie de quelque chose qui est extrêmement plus important et plus grand. Que Dieu est amour et en recevant de lui, eh ben voilà ce qui se manifeste. Donc, on pourrait relire ensemble, mais on va pas le faire aujourd'hui. Ça sera vos devoirs pour la maison. 1 Corinthiens 13. Vous pouvez toujours relire 1 Corinthiens 13. Dieu est amour. Celui qui aime, il est comme ça. Il est patient. Il est plein de douceur. Il pardonne. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et toutes ces choses. Donc, vous pouvez voir ça. Donc, 1 Corinthiens 13. Réagir, marcher dans l'amour, une action, c'est pas être faible. C'est pas être bisounours, c'est être fort au contraire et ne pas céder à la tentation de réagir de façon agressive à une agression. Et ça ne se fait pas par un coup de baguette magique tout à coup, c'est à force de s'entraîner à le faire. Peut-être au début vous réagissez au quart de tour, après vous avez un temps d'attente Et puis vous arrivez peu à peu à discerner quels sont les moments, quelles sont les situations où je me laisse entraîner à avoir des réactions qui ne sont pas de bonnes réactions parce qu'elles ne font que entraîner d'autres circonstances. Troisième chose dans lesquelles nous pouvons marcher, dans la lumière, dans l'amour et selon l'esprit. Galates 5, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. La nature humaine, c'est la description de comment les gens vivent autour de nous. C'est la nature humaine qui les pousse. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez encore en rajouter, mais c'est simplement observer la nature humaine, voir les comportements des gens et, hélas, des fois se reconnaître soi-même en disant « Ah ben voilà, je ne sais pas, vous n'avez pas besoin de me dire lesquels vous avez reconnus sur la liste. » Mais l'un ou l'autre nous parle, dit « Oui, là j'ai eu une réaction de n'importe, hein, querelle, jalousie, colère. Ou... » Alors, l'apôtre Paul dit « Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Donc ce n'est pas juste une dimension morale. Attention, ce n'est pas bien de faire ça, vous devriez faire autrement. Mais de réaliser que sans que nous sommes dans ces choses, on ne vit pas pleinement le royaume de Dieu. Alors on est à la fois chrétien, mais on est un peu en dehors du royaume de Dieu, dans notre quotidien et dans notre marche. Alors c'est quand même dommage. On est à côté. Il est dit « mais », et moi j'aime bien les « mais » qui sont bien placés. Parce que des fois on dit « oui, Dieu est puissant, mais j'ai ce problème ». Alors vous annulez tout ce que Dieu pourrait faire pour vous parce que vous dites ce qui ne va pas. Alors qu'il faut dire l'inverse. Il faut dire « voilà, notre nature humaine, elle est comme ça, mais le fruit de l'esprit, le résultat de la marche selon l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ». La foi, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, j'aime bien aussi cette version. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Si vous avez une... Des fois, on dit, je n'aime pas ton attitude. Ou, quelle attitude tu as eue là? Mais là, vous avez des attitudes qui seront appréciées. Hein. Si c'est ça votre attitude, alors c'est bien. Donc, la vie de l'esprit, c'est pas du fanatisme. Je suis là... comme ça, dans les trucs mystiques, des gens bizarres. Non, la vie de l'esprit, c'est quelque chose de très pratique. Je suis en train d'expérimenter que quelqu'un manifeste quelque chose de fort contre moi, au lieu de réagir en le rejetant, l'amour fait que j'essaie de comprendre, j'essaie de l'accepter, de chercher des excuses. C'est pas lui qui doit chercher des excuses, c'est vous qui pouvez l'excuser, d'accord ? Ça ne l'aide peut-être pas, mais vous, ça vous aide à l'aimer. Donc, j'ai dit, c'est pas du fanatisme, c'est pas du mystique, mais c'est sûr que si votre vie de l'esprit, vous le vivez à dose homéopathique, comment est-ce que vous allez avoir un impact dans votre vie personnelle? Je rappelle le principe de l'homéopathie, c'est une dilution, 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 dilution. C'est pour ça que j'utilise cette expression, pour dire que, si vous êtes bombardé par le monde, par le diable, par toutes sortes de pensées, toutes sortes d'images, etc., pendant des heures et des heures et des heures, et puis vous essayez de contrebalancer ça par la petite minute pour Dieu dans votre semaine, ça va être difficile. Hein. Je crois au miracle, mais ça va quand même être difficile. Donc, si vous êtes imprégné de l'amour de Dieu, alors c'est ce qui sortira de vous. Et c'est sous notre troisième point, c'est nos réactions. Pensez à une éponge, hein, Bob l'éponge, personnage très célèbre. Quel est le principe de l'éponge? Si vous appuyez dessus, ce qui en ressort, c'est ce qui était dedans. C'est tout simple. Alors, une éponge, quand c'est sec, ça ne marche pas. Vous avez remarqué? J'utilisais pas une éponge depuis longtemps, c'est sec, vous pouvez rien en faire. Donc, vous allez de nouveau la mouiller avant de l'utiliser. Hein. Je vous apprends, c'est quand même bien, c'est culte, on apprend à se servir d'une éponge. Il faut d'abord la mouiller. Ensuite, quand vous essuyez quelque chose, l'éponge est remplie de ce que vous avez essuyé. Après, il faut de nouveau le rincer. Et bien, c'est un peu la même chose avec nous. Ce que nous mettons en nous, quand il y a des moments difficiles, quand il y a une pression sur notre vie, c'est ce qui ressort. Si vous mettez la parole de Dieu en vous, au moment où c'est un moment difficile, il y a une pression sur vous, qu'est-ce qui sort ? Ben, la lumière, l'amour, l'esprit, la parole de Dieu. Si c'est le monde que vous avez mis en vous, alors ce qui sort au moment de la pression, c'est la peur, le doute, les angoisses, toutes sortes de choses. C'est finalement pas tellement compliqué, hein. Donc dans les réactions, on peut parler aussi de réflexes. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un réflexe qui est soit inné ou conditionné. Donc, je ne suis pas un spécialiste dans tous les domaines, hein. Mais je sais que dans le corps, par exemple, il y a des réflexes. Par exemple, le bébé, quand il naît, il faut qu'il ait le réflexe de la succion, rapidement. Il en dépend. Et s'il n'est pas là, c'est un problème grave, parce qu'il en a absolument besoin pour s'alimenter. Et donc, il va pas aller à l'école pour ça, hein. Il va pas suivre un stage de formation. C'est inné. Donc, ça nous montre que certaines choses, Dieu les a placées en nous. Si vous vous brûlez quelque part, si votre main approche de quelque chose de chaud, qu'est-ce que vous allez faire? Rapidement le retirer. Si vous n'êtes pas rapide dans vos réflexes, vous allez vous brûler d'abord. Donc, il y a des choses, après, on peut apprendre aux enfants. Nous qui avons un feu de cheminée chez nous, un enfant peut être attiré par la flamme. Bon, il y a une vitre, mais il peut être attiré. Et c'est chaud. Donc, une chose que j'ai déjà fait l'une ou l'autre fois, on peut approcher doucement la main, même d'un enfant, pour lui montrer que c'est chaud, sans aller au-delà du fait de brûler. Et donc, lui-même peut alors non seulement avoir le réflexe, mais apprendre certains réflexes. Oui ? Oui, oui, ils comprennent pourquoi. Et donc, il y a un monsieur, un physiologiste russe qui s'appelle Pavlov, vous avez entendu parler peut-être quelques-uns, voilà, avec son fameux chien. Donc, il a développé un réflexe conditionnel du chien. Donc, le chien, il salive quand il entend une clochette précédant la nourriture. Même quand la nourriture n'était pas apportée, eh bien, finalement, il avait observé que le chien avait développé ça. Alors, on va juste lire deux, trois trucs, là, à ce sujet. Donc, le réflexe de Pavlov est un réflexe conditionnel mis en évidence par Ivan Petrovitch Pavlov, qui lui a donné son nom. On dit souvent conditionnement pavlovien. Et donc, il avait observé ça. Et il a démontré que la sécrétion de la salive, elle peut être provoquée par un contact direct avec la nourriture ou par un stimulus lié à celle-ci, tel un son de cloche, par exemple. Donc Pavlov a fait considérablement avancer les recherches sur les réflexes conditionnels. Ces réflexes peuvent s'apparenter à une réaction involontaire, non innée. Vous voyez ? Non innée. Un réflexe qu'on n'avait pas et qu'on a développé et provoqué par un stimulus extérieur. Alors Pavlov a développé la théorie selon laquelle les réactions acquises par apprentissage et habitude deviennent des réflexes lorsque le cerveau a fait les liens entre le stimulus et l'action qui suit. On ne s'est pas éloigné de notre sujet biblique, on est en plein dedans, puisqu'on parle justement de développer des attitudes de réaction et de réflexes. D'accord ? Alors, il décrit deux types de réflexes, les réflexes innés, déjà présents à la naissance, et les réflexes conditionnels, ceux qu'on acquiert avec l'apprentissage. C'est sur cela qu'il se base pour faire avancer sa théorie, donner corps à cette idée. Et après, il s'est lancé dans des études sur le conditionnement des réflexes. En quoi ça nous intéresse ? Ben, ça nous intéresse beaucoup dans le quotidien pour savoir comment réagir. Premièrement, parce que ça nous fait du bien, ça nous met à l'abri éventuellement de blessures ou d'attaques, etc. Et ça nous empêche d'agir dans le monde, nous-mêmes, comme une personne agressive. Donc, mon épouse a partagé l'autre fois que dans le cadre du travail, elle avait tendu la main à quelqu'un pour lui dire bonjour, et il a dit, ah, je vous serre pas la main, comme ça. Non. C'est un peu abrupt, comme ça, mais. Alors, qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un dit, je dis pas bonjour, ou je vous serre pas la main, etc. Vous pouvez alors tomber, si vous n'êtes pas prévenu par rapport à ça, vous tombez dans un circuit de, on m'agresse, donc je réagis, donc je rejette, donc on m'a blessé, et puis vous avez besoin de 10 ou 20 ans de guérison intérieure pour vous en sortir. Je caricature, mais on tombe dans le panneau du diable régulièrement à cause d'un « il m'a pas dit bonjour ». Alors voilà, c'est pas gentil, peut-être c'était pas intentionnel, peut-être c'était pour vous blesser, peut-être c'est parce qu'il vous aime pas, mais peu importe. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir réagir et laisser l'amour de Dieu dominer. Donc nous avons naturellement un automatisme de défense. Alors il faut développer d'autres réflexes. Vivre avec Dieu, ça veut dire que peu à peu, on s'expose de plus en plus. On s'expose à l'amour de Dieu, mais on s'expose aussi des fois à être blessé. On prend des risques. Comme on dit, Jésus a pris des risques quand il a choisi son équipe. Hein? Il y en a un qui l'a trahi, les autres étaient ambitieux, il y en a un qui l'a vendu, un qui l'a renié, enfin, ils n'étaient pas très fiables, tous ces gens-là. Mais pourtant, il a pris des risques et c'était pour des choses qu'il voyait dans leur vie qu'il allait pouvoir semer en eux. Donc, j'avais même emmené, j'ai trouvé là, dans un journal, qu'il y a un séminaire de self-défense réservé aux femmes. Et donc, là, il est dit qu'ils vont donner un enseignement qui vous assure une véritable préparation mentale en vous proposant de vivre des expériences directes et réelles. Donc voilà, pourquoi? Ben parce que les femmes sont des cibles faciles pour des hommes violents, des criminels, des prédateurs sexuels, etc., qui ont au minimum 4 avantages sur leurs victimes. Avantages physiques, psychologiques, tactiques, l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, préparer les gens pour fournir l'expérience dont vous avez besoin pour pouvoir réagir le jour J et ne pas rester paralysé. Ben, c'est exactement ce que je vous propose aussi. Par rapport aux attaques du diable, ses tactiques, ses desseins, de ne pas vous laisser surprendre, mais de savoir réagir. Donc dans la self-défense, par exemple, ça peut être des techniques de combat ou autre, mais l'important c'est de développer un automatisme, de savoir comment rapidement se protéger d'une attaque ou autre chose. Mais ce qui est vrai dans le physique, ça peut aussi être vrai pour vous, pour protéger votre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, soyez entraînés. Alors, pour s'entraîner, on développe des réactions et une bonne habitude se développe comme une mauvaise. La première fois que quelqu'un a fumé une cigarette, il y a eu une réaction de son corps. Il n'a pas dit immédiatement « Ah, que c'est bon, que ça me fait du bien !» Il y a eu la réaction naturelle, c'est qu'il y a de la fumée dans les poumons, ce n'est pas normal, on veut rejeter cette chose qu'on a mis en nous. Après, il y a une accoutumance qui fait que les effets au niveau du cerveau créent un sentiment de bien-être pour certains, mais il y a une accoutumance qui fait que c'est plus ou moins accepté. Mais au début, les premières choses, des mauvaises habitudes, il y a une réaction souvent de rejet. Si vous prenez un grand verre de schnapps d'un coup et que vous n'avez pas l'habitude de boire, pareil, hein, vous n'allez pas dire « Oh, c'est délicieux !» Vous allez être secoué parce que c'est un alcool très fort. Donc, de la même façon, des fois, quand on veut développer des habitudes, c'est pas toujours instantané. Du jour au lendemain, ça y est, tout est gagné, etc. De la même façon qu'un sevrage n'est pas toujours instantané, il peut même y avoir des rechutes maintenant, mais l'important, c'est de rester fixé sur notre objectif. Moi, je suis aussi pour la théologie de l'instantané, hein. Si Dieu veut guérir dans un clin d'œil, je ne suis pas du tout contre, hein, ça ne me dérange pas du tout. Mais par contre, il y a quand même une réalité que dans certaines situations, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe par le développement de l'habitude. Donc, les réactions, on les développe par l'habitude. Jésus, il nous est dit, dans Luc 4:16, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Tout simplement, aller à l'église, c'est une habitude. Dans certaines situations où il était sous pression, il nous a dit qu'il alla à l'écart pour prier. Il était sous pression, pourquoi? Quand il multipliait de pain, des milliers de personnes étaient nourries, et il nous a dit qu'ils sont venus pour le faire roi. Donc il y avait une pression psychologique de la foule. Vous avez aussi des fois des pressions des gens qui attendent certaines choses de vous. Donc une habitude, c'est de se retirer, de se mettre à l'écart pour pouvoir prier et réfléchir. Par rapport à des grands événements de la vie, on doit des fois passer du temps prolongé dans la prière. Comme à Gethsémané, il a fallu qu'il combatte dans la prière pour qu'au moment où cette épreuve allait venir, d'être enlevé pour être crucifié, il allait aller jusqu'au bout. Et donc, quelques habitudes à développer. Voilà, j'ai découvert là, sur Internet aussi, on vous lance un challenge, un défi sur 21 jours. Donc, à nouveau, rappelez des habitudes de lire votre Bible tous les matins. Je n'ai pas passé 2-3 heures à lire, mais une parole pour vous. C'est une mauvaise habitude, on dit d'habitude, on dit c'est pas bien de ne pas prendre de petit déjeuner. Votre corps n'a pas de nourriture. À un moment donné, il faut que vous donniez des forces. Maintenant, pareil, ne partez pas dans votre journée en n'ayant pas à un moment donné pris de la nourriture pour votre esprit. Deuxième point, c'est nourrissez votre esprit aussi d'autres sources, pas seulement la Bible, mais il y a aussi des gens qui ont reçu de Dieu de bons livres, des méditations ou des personnes qui vont parler dans votre vie. Deux bonnes habitudes. Le troisième, c'est chaque jour passer un temps dans la tranquillité, dans le repos. Ayez un temps de calme. Quatrième point, pour toujours développer de bonnes réactions, et passer du temps avec ceux qui vous fortifient, pas ceux qui vous tirent vers le bas. Recherchez la présence de ceux qui vous font du bien. Je ne dis pas d'une manière absolue, vous devez des fois aider quelqu'un, c'est clair, mais passez du temps avec ceux où vous êtes bien. Cinquième point, prenez un moment dans la journée où vous arrêtez et reconnaissez Dieu. Reconnaissez, tiens, il a fait ça pour moi. Et tiens, il a eu telle réponse à la prière. Voilà, des choses comme ça. Pas, oh Seigneur, j'ai pas pensé à toi toute la journée. Je vais éviter une petite prière avant de s'endormir. Donc, ça se développe, ça se développe. Sixième point, dites non à certaines choses que, soi-disant, vous devriez faire. Des fois, c'est les autres qui vous poussent. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. On peut aussi voir par rapport à notre climat. Voilà, il y a plusieurs jours où il fait sec. Et puis, on se dit, oh, ce soir... maintenant un exemple, ah, je ne peux pas aller à la réunion de prière, il faut que j'arrose mon jardin. Et la nuit d'après, il pleut. D'accord ? Ça peut être une illustration de quelque chose où vous vous êtes senti obligé, il faut que je fasse. Alors qu'en disant non, des fois vous avez la réponse de Dieu. Juste une idée comme ça en passant. Et le septième, priez pour être rempli du Saint-Esprit chaque jour. Et avoir été rempli du Saint-Esprit hier, c'était bien, mais ça ne vous sert plus à rien du tout pour aujourd'hui. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour aujourd'hui. Donc dans chaque situation, vous avez dans la parole de Dieu ce qui convient. Et c'est résumé dans Jacques 5, qui sera ma conclusion. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, verset 13, qu'il prie. Donc la souffrance a une réponse, la prière. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens. On peut prier ensemble, on peut même faire l'onction d'huile. Et il nous est dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Donc, chaque situation a une réaction appropriée. Donc, continuons de parler à Dieu dans toutes ces circonstances et le remercier pour sa présence. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.